L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique et au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Avant que Georgi Kurtag ne prenne le son des claviers téléphoniques pour en faire le motif musical de certaines pièces de Seyat et Koch, avant que quatre notes descendantes jouées au trombone servent de gimmick sur les plateaux télé pour sanctionner une blague pas vraiment drôle, avant que Pierre Boulez n'utilise le code Morse pour coder les lettres du nom de sa chère dans Messages Esquisses, au XVIIIe siècle, il y avait un petit instrument de musique qui servait uniquement à la communication pour signaler l'arrivée du courrier postal qui s'est trouvé cité dans de nombreuses pièces instrumentale de Handel, Vivaldi, Bach, mais encore Duval, Boutmy ou encore Kaiser. Pour raconter l'aventure de ce petit instrument qui s'appelle le corde postillon, nous recevons Alice Julien Laferrière qui a fait des recherches exactement sur cet instrument, mais aussi Jean-François Madeuf qui le joue et qui le fait sonner, et le corniste Lucien Julien Laferrière. Bonjour Alice Julien Laferrière.
Bonjour.
On vous entendait à l'instant au violon jouer le rondo Le Courrier avec Kazuya Gunji au clavecin. C'est une pièce de François Duval. À l'époque où François Duval compose ce rondo, Le Courrier, c'est pas encore exactement les lettres qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, c'est un individu ?
Oui, tout à fait.
C'est une fonction.
C'est une fonction. C'est la personne qui accompagne le postillon dans la livraison du courrier.
Alors, c'est qui le postillon ?
Alors, le postillon, c'est un personnage haut en couleur qui distribue le courrier, mais qui également transporte des voyageurs. Voilà. Et il est accompagné d'un courrier qui est censé défendre le courrier au péril de sa vie avec un poignard. Pour qu'on n'attaque pas les diligences, justement, qui souvent étaient sujettes à des grandes attaques, ce qui a donné des histoires un peu sordides. Et donc voilà, c'est tout cet univers de la poste qui m'a passionnée.
Oui, parce que la question est alors de savoir si vous êtes intéressé à la musique de poste, à quel moment, enfin au moment où vous avez croisé genre un rondo Le Courrier, ou parce que...
Alors c'est plutôt les imitations du corps de poste dans le répertoire pour violon qui m'ont intéressé. Et puis par extension, après j'ai cherché, et effectivement il y a tout un répertoire dans la musique française, donc ce courrier, également une pièce qui s'appelle La Diligence, des rondos ou menuets qui s'appellent La Poste. Donc voilà, ça c'est dans le répertoire français. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'entend pas d'imitation du corps de postillon dans le répertoire français, plutôt des rondos dans ce style-là qui évoquent le roulis du carrosse, de la diligence ou du cheval. Et c'est plutôt dans la musique allemande et italienne qu'on va retrouver l'imitation du corps de poste.
Oui, parce que finalement, le premier postier que l'on peut faire en musique, c'est le cheval.
Mais tout à fait.
Donc le premier son, c'est le tagada, quoi.
Et oui, et alors pour cela, on peut tout à fait utiliser des noix de coco. Voilà.
Ça, c'est ce que vous faites dans vos spectacles?
Et oui.
Et on le faisait déjà à l'époque, non?
Je ne sais pas.
On n'accompagnait pas
des sonates. Je ne suis pas sûre qu'on connaissait des noix de coco à l'époque.
Voilà. On peut écouter une diligence de Louis de Quai-d'Hervelois. C'est qui, Louis de Quai-d'Hervelois?
C'était un violiste. C'est une pièce pour viol de gambe à l'origine.
Thank you. Si on jouait à une sorte de blind test et qu'on n'avait pas entendu les 5 premières minutes de l'émission, Alice Julia de la Ferrière, je pense qu'on ne saurait pas qu'il s'agit d'une musique postale ou en tout cas qui fait référence à l'acheminement du courrier.
Effectivement, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est dans la musique française, l'imitation n'est pas présente, l'imitation du corps de poste, de la sonnerie. Et donc, on va avoir ça dans le répertoire allemand plutôt.
Et dans ce qu'on va écouter ensuite, d'abord, peut-être faire encore quelques précisions de termes. Il y a eu une longue période où le mot facteur n'était pas du tout synonyme de postier. Ça désignait donc le facteur d'instrument et cette acception précède celle du facteur qui distribue le courrier en 1421. Et c'est seulement au XVIIe siècle qu'on parle donc de facteur au sens de quelqu'un qui distribue des lettres.
Mais oui, tout à fait. Et cette notion de facteur forcément nous a intéressés puisqu'on a dû faire appel à un facteur d'instrument pour entendre le cor de postillon. Et donc, oui, c'est une mise en abîme.
Alors, avant de effectivement parler du travail de Patrick Fraisse, qui est donc le facteur avec qui vous avez travaillé avec Jean-François Madeuf, peut-être dire un mot de la poste des bouchers, puisque c'était avant que les facteurs n'en fassent une spécialité, les bouchers qui acheminaient le courrier.
Oui, alors, c'est la grande histoire du corps de postillon commence par une querelle, la querelle des bouchers.
Et pourquoi une querelle ?
Eh bien, puisque à l'origine, le courrier était acheminé par les bouchers qui allaient de ville en ville avec leur bétail et qui annonçaient leur arrivée dans les villes en sonnant dans la corne de leur vache. On va vous faire entendre une sonnerie de corne de vache.
Jean-François Madaf, est-ce qu'on peut dire que ce projet a été la première fois de votre vie de musicien qui vous a donné l'occasion de jouer de la corne ?
Non, j'en ai soufflé à d'autres reprises, entre autres montré dans des animations scolaires à des élèves. C'est le grand classique. D'où vient le cor de chat ? C'est un certain nombre d'instruments de la famille.
Alors, cette corne n'est pas une corne exactement comme les autres ? Elle a été travaillée, trouée de façon spécifique ?
Elle a juste été coupée en son bout avec un petit évasement créé pour de manière à faire une sorte d'embouchure qu'on va pouvoir porter aux lèvres comme n'importe quel instrument de cuivre. Petite cuvette qui reçoit les vibrations des lèvres et qui sont amplifiées en plus après dans l'instrument.
Et vous avez fait 2 notes ?
Mais oui, parce que vu qu'elle est très courte, on ne peut pas en faire plus. Ça, c'est les lois de l'acoustique. Un tube produit une fondamentale et immédiatement après, la note à l'octave au-dessus. Et puis, si on allonge l'instrument progressivement, on a d'autres intervalles, d'autres notes ensuite.
Mais alors, cet écart d'octave va être un élément de reconnaissance du corps de postillon ensuite ?
Ben oui, parce qu'on voit la taille des cordes postillon au XVIIIe siècle, qui sont, si on les déplie, pas tellement plus grands que la corne que je viens
là,
de souffler.
Là, on est à la radio, il faudrait donner un ordre de grandeur. C'est quoi ? C'est grand comme un pot de yaourt et demi en hauteur ?
Oui, ça tient en gros dans la paume de la main.
Oui, enfin doigt compris.
Et là, on a effectivement toujours que 2 notes.
Ça, c'est un instrument qui a été fait par Patrick Fraisse à Bourges en 2020.
Alors, on est parti à la fois de photos et de mesures qu'on avait pu récupérer d'instruments originaux qui sont dans certaines collections, qui ont été conservés entre autres, je pense, ce très beau joli cor de poste en argent massif du facteur de Nuremberg, Johann Wilhelm Haas, qui est la Wallace Collection de Londres, qui exactement nous a vraiment inspiré pour cet instrument et donc a été conservé parce que c'est un objet d'art en plus d'être un petit instrument de musique. Voilà. Et on a dû en reconstituer un autre pour la cantate de Händler où il y a un cor un petit peu plus grave en fa.
On écoutera un petit peu tout un extrait de cette œuvre.
Et ouais. On entendra effectivement que on a toujours 2 notes, mais elles sont un petit peu plus graves parce que l'instrument est un poil plus gros et un poil plus long.
Et puis il a une enroulade de plus.
Voilà.
Donc c'est quoi ? C'est des mini-cors ?
C'est des cors de postillon, posthorn en allemand. Cor de poste, littéralement.
Traduit. Alors là, on a une ambiguïté de terme, oui.
Oui, et d'ailleurs, c'est là qu'apparaît la bataille des bouchers. C'est que c'est ce corps qui va détrôner les cornes de vache progressivement à cause d'une famille qui va prendre le monopole postal et interdire toute autre utilisation de sonnerie annonçant l'arrivée dans les villes.
Ça y est, ils ont privatisé le répertoire. Voilà, enfin, même si c'est un mini-répertoire. Quoi, c'est...
Ils ont privatisé la sonnerie en octave. C'est la famille Turn und Taxis.
Où Tour
et Taxi. Alors, ça commence en Italie.
D'accord.
La famille Tasso.
Ah bien, en plus, c'est une affaire complètement européenne.
C'est une affaire européenne. Qui, ouais, qui,
en quelle année ?
Qui commence au XVIe siècle en Italie et qui va durer jusqu'au XIXe siècle. La famille Tour et Taxi va prendre de l'ampleur, va devenir même anoblie par l'Empire, etc. Et ça
voulait dire quoi ? Parce qu'il n'y avait pas encore de droit d'auteur, donc ils n'avaient pas de copyright sur le saut d'octave. Mais en revanche, si quelqu'un d'autre jouait du cordeau postillon, il se faisait disputer. Quoi.
Exactement, il se faisait même châtier. Il y avait des amendes corporelles où ça pouvait leur coûter très cher.
D'accord, oui. on va écouter Jean-François Madoff un extrait d'un concerto pour cordes chasse et cordes postillon de Johann Baer. C'est de quelle époque ?
Tout début 18e siècle. Voilà, mais je pense que Julien est
alors,
fin 17e et début 18e. Alors, je redis.
Il est mort en 1700.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Bonjour Lucien, Julien Laferrière.
Bonjour.
Est-ce que vous soupçonnez que votre sœur s'est intéressée au corps de postillon pour renouer le contact avec vous qui êtes corniste ?
En bon frère que je suis, je peux au moins le supposer. Effectivement.
C'est-à-dire que vous jouez du corps depuis tout petit.
Oui.
Mais vous n'avez pas joué du corps tout petit tout de suite.
Non, effectivement, ça je l'ai découvert d'ailleurs à travers Alice beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que si on pousse les recherches familiales, on a des photos de voyages d'enfance où déjà on a fait un voyage en Europe centrale. Et c'est vrai que le corps de position dont on parle depuis tout à l'heure est l'emblème de la poste de beaucoup de pays actuellement, encore à l'heure actuelle, à travers la famille Tourin et Taxis qui s'est effectivement implantée dans toute l'Europe et a fait ce fameux monopole postier. Et donc c'est encore l'emblème de la poste, évidemment. Les exemples les plus marquants, c'est l'Allemagne, la Suisse, même l'Espagne, on le voit beaucoup en Espagne.
Ah, c'est pour ça qu'on trouve des petits corps sur les boîtes aux lettres.
Exactement.
Mais alors c'est lequel de ces corps ? C'est le corps de postillon ou le post-horn ?
C'est le petit, l'original.
D'accord.
Oui, celui du XVIIe siècle.
Alors je viens de dire post-horn, de quoi s'agit-il ?
Du corps de poste, la traduction littérale.
Mais quelle est la différence alors ?
Avec le corps
Avec le corps de postillon.
Ah, c'est le même instrument.
C'est le même, sauf qu'il est plus gros quand même.
Ah non, en fait, c'est le même, mais qui a évolué.
Ah
là,
oui,
vous
c'est
avez
ça.
L'évolution.
D'accord.
Devant vos yeux, vous avez l'évolution.
Oui, on a d'accord, plusieurs parce que... siècles de post-horn.
Mais
sous
nous,
les
en
yeux.
Fait, là, en fait, Jean-François brouille les pistes parce que nous, on ne s'est intéressé qu'aux petits.
Oui, oui, bien sûr. Enfin, sauf que donc, j'ai introduit par ailleurs un autre corps qui est le corps de chasse que vous jouez dans la même pièce. Quelle est la différence ?
Alors, le corps de chasse, c'est un instrument beaucoup plus grand. Qui est donc beaucoup plus grave aussi et qui est effectivement, je ne vais pas vous faire tout l'historique du corps, mais qui est donc apparu en France dans la deuxième partie du XVIIe siècle et ensuite a été utilisé beaucoup dans la musique notamment française et aussi allemande et qui a ensuite évolué au gré des siècles pour devenir le corps d'harmonie actuel avec des pistons qu'on joue dans les orchestres. Voilà.
Alors, on va écouter une bourrée extraite de ce concerto pour corps de chasse et corps de postillon de Johann Baer avec d'abord le corps de postillon, un peu plus aigu que le corps de chasse qu'on va entendre immédiatement ensuite.
Agora, Côte d'Azur.
Jean-François Madoff, si je comprends bien, quand Alice est venue vous chercher, c'est pour jouer des si bémols, quoi.
En fait, c'est parti d'une discussion où on était l'un et l'autre sur un autre projet. Et elle m'a dit, comment tu connais le concerto de Baer pour corps de chasse et corps de poste ? J'ai dit, mais bien sûr, j'ai même acheté la partition, parce qu'il y a une édition moderne, et je rêve de monter ça un jour. Elle m'a dit, ben, ça tombe très bien, j'ai un projet sur le corps de poste, je rêve aussi qu'il y ait quelqu'un, qu'on fasse reconstituer les instruments pour jouer ça. Et puis, ben, donc voilà, le projet, ma participation sur le projet est venue comme ça. comme parce que je suis trombettiste, mais je joue aussi beaucoup le corps naturel. Alors, ce qui est assez amusant pour cette pièce-là, c'est que c'est le même interprète qui joue les deux instruments. Vous avez entendu, il y a quelques mesures de vide entre, donc il faut changer très vite d'instrument.
Vous les gardez tous les deux en main, en fait.
Oui, si vous avez regardé la vidéo qu'on a faite, parce que c'est visuellement aussi que c'est très intéressant, cette pièce très originale. J'ai assemblé mon petit corps de poste sur le gros corps de chasse. Et j'en joue comme un instrument duplex. J'alterne, voilà, je passe d'une embouchure à l'autre très rapidement. Je switch, comme si j'avais, au lieu d'appuyer comme sur un instrument moderne dans des pistons pour changer longueur de tube, ben là, je switch sur l'embouchure d'à côté pour jouer de l'autre instrument. Donc, c'est vrai que c'est très marrant, c'est un côté visuel aussi très particulier.
C'est une vidéo qu'on peut voir sur le site des éditions Seule Étoile en un mot, les éditions Seule Étoile qui ont publié en 2022 un recueil de fiches avec une documentation historique. Alice, Julia Laferrière, pourquoi vous avez choisi cette forme ?
Un recueil de fiches, c'est drôlement annoncé. C'est une sorte d'enveloppe, puisque nous sommes dans le thème postal.
Avec du courrier.
Avec du courrier, voilà. Et donc vous y trouvez des cartes postales de différentes formes. Vous y trouvez même une carte des Poste d'Allemagne.
Ah oui.
Voilà, au dos de laquelle vous pouvez retrouver une partie du livret, puisque ce livret est écrit sur justement différents supports qui rappellent la poste et le courrier.
Et où on trouve référence à un certain montreur de curiosité, parce que donc le corps de postillon, au-delà de l'emblème et de son caractère très pratique pour les facteurs, les postillons, était déjà un objet de curiosité au XVIIIe siècle.
Alors, annoncé comme ça, on peut le dire. Il se trouve que le corps de postillon, en fait, a surtout été imité, puisque c'était un instrument de signal et pas du tout utilisé dans la musique savante. Donc c'est d'ailleurs en tant que violoniste pour ça que je me suis intéressée à cet instrument, c'est parce qu'il a été imité par les plus grands compositeurs et il a donné lieu à des concertos et des pièces très virtuoses pour violon. Mais on le trouve quand même utilisé à l'époque dans deux œuvres, donc dans le concerto de Johann Berg que vous venez d'entendre, qui est une rareté, on peut le dire, puisque c'est
On n'a pas donné la date d'ailleurs de ce concerto, on a donné
c'est avant 1700.
Oui, parce qu'on ne l'a pas, il est mort en 1700.
D'accord. Voilà. Johann Berg est mort avant 1700 et il tenait une auberge. Il voyait sûrement passer des chasseurs. Il a d'ailleurs lui-même été tué lors d'un accident de chasse, prématurément. Et donc ce double concerto qu'on vient d'entendre, qui utilise deux instruments de signal et qui n'était pas encore utilisé dans la musique savante, c'est une sorte de rareté. Et la deuxième œuvre dans laquelle on retrouve le corps de postillon mentionné, vraiment comme instrument de musique, c'est une cantate de Händler qui s'appelle « Le montreur de curiosité ».
C'est le 16 avril 1747 que le vice-maître de chapelle, Johann Samuel Händler, livre sa composition d'anniversaire. D'ailleurs, c'est une pièce de circonstance. C'est quoi ce montreur de curiosité? Ça renvoie à quelle réalité sociale?
Alors, un montreur de curiosité, il faut imaginer une sorte de saltimbanque qui visite les foires et autres événements commerciaux de pays comme l'Allemagne, par exemple. Dans ce cas-là, c'est l'Allemagne. Et donc, en général, il est d'origine étrangère. Il y a même des sources de l'époque qui disent que souvent, il s'agit d'Italiens, qui parlent donc un allemand qui n'est pas tout à fait un dialecte non plus, encore moins la langue officielle du pays dans lequel il se trouve. Mais en général, on parle de lingua franca, c'est-à-dire qu'il parle une sorte de sabir allemanisant, si on peut dire, pour se comprendre entre étrangers. Et donc, il voyage dans ces événements avec une sorte de théâtre miniature. Alors ça peut prendre beaucoup de formes, ça peut être des théâtres de marionnettes ou ça peut prendre la forme de tableaux à plusieurs pans sur lesquels on montre des choses. Et ils ont pour particularité de se présenter au public avec toujours la même accroche, qui est aussi celle qui est utilisée dans cette cantate de Händler, qui est donc en français, nous l'avons traduit par « Oh, belle attraction ». « Oh, belle curiosité », donc dans la version allemande, c'est « Oh, Zena Spielwerk, Oh, Zena Rarité ». Et donc, voilà, c'est pour amener le chaland, le passant, à s'intéresser à ces curiosités. Et donc, cette pièce de Händler est intéressante à plusieurs égards. Sur le plan historique, elle est vraiment très, très spéciale parce qu'elle fait appel à tous les événements politiques qui ont lieu autour de 1747. Donc notre montreur de rarité vient décrire, pas toujours très élogieusement, voire croquer toutes les personnalités politiques du moment. Donc on s'inscrit dans un conflit européen qui est la guerre de succession d'Autriche. Voilà, on ne va pas rentrer peut-être dans beaucoup de détails politiques, mais en tout cas...
Mais ça veut dire qu'il y a un aspect chronique. Quoi. Bah,
oui, il a le rôle d'un journal vivant, un journal itinérant, on pourrait dire. Et satirique, effectivement.
Mais c'est un extrait chanté par le baryton Romain Beauclerc. Extrait de la cantate Le Montreur de Curiosité de Johann Samuel Handler de 1747. Jean-François Madoff, là, il y avait deux cors.
Oui, alors tout à l'heure, on switchait avec un seul interprète du cor de chasse au petit cor de poste en si bémol. Et là, on a entendu les deux petits cors de poste de longueur différente qui switchent l'un et l'autre, mais par deux interprètes différents. J'étais avec mon collègue Jean-Daniel Souchon.
Et là, ils font. Vous faites chacun une hauteur différente.
Voilà, on joue deux notes, comme on a entendu tout à l'heure.
Vous
sur
étiez donc toujours au si bémol ? Non.
Moi, si bémol, lui en fa, voilà.
D'accord. Et donc, il fait l'octave fa-fa.
Voilà.
Mais alors, il se perfectionne jamais, cet instrument, pour faire plus de notes ?
Si, par la suite, je pense tout le monde, enfin beaucoup de gens connaissent la sérénade post-horn de Mozart.
Alors post-horn, c'est la version allemande du même terme en fait, c'est corps de poste
voilà,
aussi. Ouais.
Qui est de quelques années postérieures à cette cantate-là.
Pas tant que ça ?
Non, pas tant que ça.
Mais alors regardez, 20-30 ans après.
Alors regardez la forme des instruments.
Alors là, il faut qu'on le décrive pour les auditeurs. Donc c'est le même en deux fois plus grand et avec deux fois plus d'enroulement.
Voilà, et qui produit beaucoup plus de notes. Alors là, c'est même un instrument du 19e siècle, tel qu'il aurait été employé par Ludwig Spohr dans un divertimento pour instrument à vent. Je joue les notes. Oui, tout d'un coup, on a beaucoup plus de notes et pas uniquement l'octave de départ. Voilà.
Et je pars, donc c'est dans les années 1830-40.
Oui, c'est un divers, un nocturno pour ensemble à vent, donc un nocturne à la base avec des trompettes, de la musique turque et un solo de corps de poste qui fait ça.
Mais il y a quelque chose qui m'échappe, c'est que le corps d'harmonie existait déjà, Lucien, Julien Laferrière.
À cette époque?
Oui.
À quelle époque alors?
En 1830-40, quand Tupor cette partition. Donc quel avantage est-ce qu'il a à reprendre ce corps de poste avec seulement 4 notes par octave, plutôt qu'un corps d'harmonie qui pourrait faire...
C'est un intérêt anecdotique.
D'accord.
Couleur locale, quoi.
Donc c'est pour le clin d'œil.
Voilà, comme les compositeurs précédemment qui ont écrit des imitations pour violon. C'est l'aspect, voilà, couleur locale.
Alors ça commence très tôt, Julien Laferrière, de effectivement imiter le corps avec un violon dans des concertos composés dès le début du XVIIIe siècle.
Et oui, c'est la pleine période du corps de postillon dans l'imitation, effectivement. Oui, autour des années 1720-1730.
Ça veut dire que tous les instruments l'imitent, même les flûtes, les...
Et alors non, c'est un privilège du violon, a priori.
On sait pourquoi. Parce que plein air, peut-être.
Mais je ne sais pas effectivement pourquoi le violon, les violonistes italiens ont par habitude d'imiter beaucoup de choses. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis intéressée aux imitations au violon. Donc je pense que c'est vraiment une des particularités du violon, d'imiter.
Mais aussi d'être un instrument de rue.
Alors en l'occurrence pour les concertos Vivaldi, c'est plus vraiment un instrument de rue. Au départ, le violon, effectivement, il était peut-être fait pour danser, mais déjà là, on est dans la musique vraiment beaucoup plus savante. Au contraire, même plutôt galante. Plutôt pour des salons, c'est de la musique qui est réservée à une élite, plutôt ça.
Pourquoi vous parlez de Vivaldi?
Oui, alors là, je suis déjà dans les imitations du corps de poste au violon. Et donc, on a une sonate de Veracini, qui est la première sonate de son opus 1, donc qui ouvre tout un cycle, toute l'œuvre de Veracini pour violon, qui imite le corps de poste, mais également, à peu près à la même époque, Vivaldi, qui va composer un concerto sur l'imitation du corps de poste.
Thank you. l'ensemble Artifice jouant le concerto aussi à Cornetto da Posta de Vivaldi. Sans doute que pour les oreilles de l'époque, ça tiltait tout de suite d'entendre ce saut d'octave au violon en se rappelant du corps de postillon, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, à moins d'avoir mis sur son téléphone portable un corps de postillon et de l'avoir comme sonnerie.
Ce que j'espère qu'on y viendra, que tout le monde aura la sonnerie du corps de postillon sur son portable.
Vous avez donc conçu cette publication comme un courrier, et comme ça fait toujours plaisir de recevoir du courrier, on a une musique plutôt joyeuse.
Mais oui, tout à fait, le corps de postillon est joyeux, par essence.
Par essence,
oui,
c'est-à-dire que c'est toujours de bonnes nouvelles qui arrivent.
Alors, bon,
parce que normalement, pas toujours, mais...
Oui, alors ce n'est pas que le courrier et le postillon transportent des voyageurs. Voilà, c'est aussi l'arrivée des voyageurs, pas que du courrier.
Oui.
Et donc, c'est souvent quand même on attend les nouvelles à une époque où il y a pas tellement d'autres moyens d'avoir des nouvelles. Donc, c'est pas forcément que joyeux, mais tout de même, l'arrivée du postillon en général fait plaisir. D'ailleurs, il paraît qu'on lui offrait souvent à boire et qu'il se mettait à raconter beaucoup de choses.
D'ailleurs, pour illustrer la gaieté, on peut parler aussi d'une autre œuvre, de Kaiser, dont on a enregistré le prologue. Et je vous propose de lire le texte de l'air. « Au plaisir, à la distraction, le corps de poste enjoué égaye la poitrine et nous fait prendre conscience, après le chagrin, la revendication et la douleur, de l'heureux arrêt des armes. À la distraction, au plaisir. » Donc vous voyez, là, dans ce cas-là, la bonne nouvelle, c'est quand même la paix européenne. Donc on parle d'un autre conflit. Alors,
ça veut dire que le postillon devient une espèce de symbole politique, alors.
Tout à fait. Et même, il devient le relais entre le pouvoir central et son peuple.
Agora Côte d'Azur.
Le postillon n'est donc pas que porteur de courrier, il est aussi porteur d'espoir.
D'espoir et de bonnes nouvelles.
Et de bonnes nouvelles.
Et oui, et dans un XVIIIe siècle où les conflits armés majeurs se multiplient, et il apporte donc en l'occurrence là dans cette ère la paix, ce qui n'est quand même pas la moindre des nouvelles.
C'était une pièce de 1714, c'est-à-dire quasi contemporaine du concerto de Vivaldi qu'on écoutait précédemment, qui est de 1720. Et alors, l'ensemble Artifice a reçu une lettre de Jean-Sébastien Bach.
Eh oui, il nous a écrit ceci. « Chers musiciens de l'ensemble Artifice, ayant entendu dire que vous vous intéressiez à cet instrument extraordinaire qu'est le cor de postillon, permettez-moi de vous présenter l'œuvre que j'écrivis en 1704 pour le départ de mon frère, Johann Jakob. J'avais alors 19 ans et j'étais très proche de ce frère de 3 ans mon aîné qui venait de s'engager comme oboïste dans la garde d'honneur du jeune roi de Suède. Avant de la rejoindre définitivement, il passa nous dire au revoir. Toute notre famille et nos amis s'étaient réunis à Arnstadt pour un dernier adieu et c'est un souvenir qui m'émeut encore bien des années après. Nous savions qu'un tel voyage en voiture, de poste, de Thuringe jusqu'à la Pologne, où il allait retrouver Charles XII, n'était pas des plus confortables, qu'il représentait bien des dangers, et que nous ne reverrions pas de sitôt notre cher Johann Jakob. Son voyage fut bien plus incroyable que celui que nous aurions pu imaginer, et son absence devait durer 11 années. Nous ne pouvions prévoir que l'armée de Suède mènerait mon frère à la conquête de l'Empire russe, puis aux côtés du roi en fuite sur le territoire turc. Je recevais alors des lettres de Constantinople avant d'apprendre avec soulagement qu'il était de retour à Stockholm. Nous n'avons plus jamais été réunis depuis cette fin d'après-midi à Arnstadt. Je n'oublierai jamais la sonnerie que le postillon, prêt à partir et appelant mon frère, jouait avec tant d'insistance. Cette sonnerie, qui peut être si joyeuse et si mélancolique, m'inspira un petit air et une fugue le soir, une fois que mon frère eut disparu dans la voiture lancée à vive allure. Que cette œuvre vous rappelle à vous, musiciens voyageurs, combien l'avancée du monde et les nouveaux moyens de transport rendent les adieux moins poignants de nos jours. Continuez à transmettre la passion du postillon, Johann Sebastian Bach.
On l'a connu plus austère. Hein.
Bah, on se fait une image de lui, on ne sait pas trop. À vrai dire, je n'ai jamais lu ses lettres.
Et ça veut dire qu'il est tellement difficile de documenter le corps de postillon que vous êtes obligé d'inventer des sources, en fait.
Bah, bon, c'est une source comme une autre, effectivement, un petit peu détournée. Mais on a vraiment repris, on a beaucoup d'histoires autour de cette œuvre, le Capriccio, sur le départ de son frère bien-aimé. Donc c'était une manière un petit peu originale de les raconter.
On entend donc que ce corps de postillon devient une espèce d'emblème de paix, de bonne nouvelle, on disait avec Kaiser à l'instant. Ça va jusqu'où en termes d'idéalisation? Ça va jusqu'à la bonne nouvelle au sens quasi théologique du terme?
Alors oui, on peut dire ça. Il y a beaucoup d'exemples de cette utilisation du postillon, notamment dans Belshazzar d'Hendel. Le postillon symbolise l'envoi de messagers pour rassembler des sages, sorciers et astrologues appelés pour interpréter une inscription mystérieuse. Et voilà où le corps de postillon entre en scène.
Donc là, on est dans un oratorio où, pour dire que le message qui arrive est important, on fait tarantantam.
Exactement.
Ça, qui devient une espèce de gimmick. Un extrait de la Sinfonia Allegro Postillon, c'est écrit comme ça, Allegro Postillon, sur la partition de Belshazzar,
oui.
L'oratorio de Hendel. C'est ce qu'on appelle un figuralisme, musicologiquement.
Oui, et d'ailleurs, Hendel, ce n'est pas la première fois qu'il utilise ça. Moi, ça me fait penser au procédé similaire qu'il utilise dans le Messia. Pour l'air Trompette de Charles Sand, où les questions du jugement dernier, il met la sonnerie de trompette qui est jouée dans tous les tribunaux en Angleterre à l'époque pour annoncer l'ouverture de la session, en début de l'air joué avec une trompette obligée. Donc un compositeur de musique de film ne ferait pas mieux à l'heure actuelle pour mettre le public dans l'ambiance. Thank you.
c'est pas juste pour le plaisir spéculatif de se dire l'octave c'est rond théoriquement, donc ça va servir de signal du message. C'est aussi que pour des questions organologiques, avoir des instruments très simples à transporter, ils ne savent faire que ça.
Voilà. Alors qu'une trompette naturelle qu'on peut transporter aussi quand même sur le champ de bataille à l'époque, parce que c'est un instrument de signalisation aussi, est symbolique aussi, elle est plus longue, elle peut faire plus de notes. Donc elle est caractérisée dans son registre, dans son octave grave, plutôt par l'arpège sur l'accord parfait, qui symboliquement est aussi un intervalle,
donc,
une série d'intervalles
tonique, tierce et quinte. Vous avez une trompette naturelle dans la main, figurez-vous.
Oui, donc elle est caractérisée dans son registre militaire, dans le grave, par les notes de l'accord parfait. Ce qui donne, en début du trompette chalcin dans le Messia, la sonnerie du jugement pour ouvrir la session.
Ce qui fait de cette trompette, on dit naturelle parce qu'elle n'a pas de piston.
Oui.
Un instrument messager aussi, alors.
Exactement.
Sauf qu'elle a des messages moins prosaïques que le postillon.
Mauvaise nouvelle, en général.
Elle est funeste, la trompette, oui.
C'est la guerre. Hein.
C'est la guerre.
Et la
mort. Instrument guerrier, voilà.
Ouais, très guerrier.
C'est pas anodin.
C'est pas anodin, c'est parce qu'il y a une histoire. C'est-à-dire que c'était l'instrument qu'on emportait effectivement à la cavalerie.
Voilà, dans la cavalerie, qui servait avec les timbales à coordonner les mouvements de troupes à l'intérieur d'un régiment de cavalerie. Donc le trompettiste et le timbalier étaient des gens très très importants, que d'ailleurs c'est un métier très dangereux parce que les soldats de l'armée adverse, pour désorganiser les adversaires, essayaient bien sûr de tuer en priorité ces gens-là, qui en plus ne pouvaient moins facilement se défendre. Ils avaient bien une épée, mais quand on a une main occupée par la trompette ou les deux mains occupées par les baguettes de la timbale, voilà. Et également de voler la trompette ou les timbales du régiment adverse, c'était vraiment, c'est comme ce qui était des instruments d'honneur, c'était un acte de bravoure, c'était très important. Donc voilà, métier, c'est moins drôle que le corps de postillon, mais ça fait partie aussi de la symbolique de ces instruments de cuivre à l'époque, au même titre que le corps de chasse, qui lui servait la signalisation à la chasse.
À jalonner les péripéties, effectivement, d'une journée de chasse, et de reconnaître certains animaux ou certaines situations, voilà.
Tandis que le clairon, lui, n'arrive qu'au début du 19e siècle.
Oui, et se retrouve finalement limité aux mêmes notes que le cor de postillon de l'époque de Mozart ou de Spohr ou de Beethoven.
Alors on va retrouver cette trompette naturelle avec les timbales à la fin de la cantate de Händler dont on a entendu un extrait tout à l'heure.
Accord à côté sur... Sei ewig mit Segen und Wohlsein umgeben. Das Gütigkeit deutet, das Gütigkeit deutet, so wie sich's gefühlt und hoffe, dass sie hat von Gott aus erhöht, und hoffe, dass sie hat von Gott aus erhöht. Ihr gnädigste Seppe, ihr viel teures Leben, dein ewig mit Segen und Gottheit umgeben. Das Gütiger deutet so wie sich's gefühlt und hoffe, dass die hat von Gott aus der Höhe. Von Gott. soll freuen. Der liebe voll Wonnen, mein Herz voll Freuden, erreckte die Jahre und Seele, die Zeiten des ältesten Fürsten, der Essen regiert, so bleiben die Alten ein Gruß nach Riti. Der Liebe voll Wonne und Herze voll Freuden, der Rechte die Jahre und Sinne, die Zeiten des ältesten Fürsten der Essen regiert. So bleibet die Alte, so bleibet die Alte. Ein Gruß, an Ideen.
Extrait de la cantate Le Montreur de curiosité de Johann Samuel Endler. On entendait donc Force trompette naturelle et timbale reprendre ce saut d'octave qui sert de signal à l'arrivée du courrier. On entend bien que c'est un signal qui a cessé de l'être au 19e siècle en même temps qu'a disparu petit à petit le corps de postillon. On sait à peu près quand il s'est arrêté de teinter, de sonner.
Le corps de poste ?
Ouais.
À la fin du 19e siècle, je pense.
À la fin du 19e siècle, oui.
Oui, car le professeur au Conservatoire de Paris, Georges-François-Auguste d'Auvernay, durant une grande partie du 19e siècle, de trompette.
De trompette, oui.
Voilà, enseignait, à un moment donné, on trouve trace d'un contrat, enseignait au postier parisien le maniement du corps de poste. Voilà.
Ah, ça nécessitait quand même un petit apprentissage musical.
Bien sûr, pas si c'est un instrument qu'il faut. Voilà, donc il avait quelques heures d'enseignement pour la poste.
C'est l'occasion de dire que c'est extrêmement dur à jouer. En fait, on en parle comme ça et puis Jean-François les joue très facilement, mais à vrai dire, à part lui, c'est très 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 difficile de jouer une embouchure aussi petite et de faire des notes aussi aiguës.
Parce que quand vous travaillez il y a quelques années avec Patrick Fraise à reconstituer l'instrument, vous deviez rechercher le fameux octave.
Oui, ce qui a posé problème acoustique, parce que même avec quelques exemplaires sous les yeux, c'est un peu, dirons-nous, approximatif, et à partir du moment où on veut l'intégrer dans un propos musical, je pense que les cordes de poste, en temps ordinaire, dans l'utilisation postale, ils ne recherchaient pas la justesse absolue de leur octave. C'était globalement le son et le signal en lui-même qui tiltait aux oreilles.
Ouais, c'est pas sûr que c'était aussi juste à tous les coups.
C'est même sûr que ce n'était pas juste à tous les coups, parce qu'on
n'avait pas le même niveau.
Et dans les descriptions
d'instruments de cuivre, et pas des professionnels chevronnés.
Et puis ils étaient à cheval, ça devait quand même pas être si évident. Et on a des descriptions vraiment très précises de l'approximation de ces sonneries.
C'est-à-dire, des musiciens qui se plaignent que c'est faux.
Oui, alors le peintre Fragonard, c'est au 19e, mais dit que effectivement ça ressemble pas à grand-chose. Ou alors même le philosophe Kierkegaard.
Avait l'oreille absolue, Kierkegaard?
Kierkegaard, en tout cas, a écrit quand même un ouvrage qui s'appelle La reprise, et justement, il nous dit qu'il n'y a pas de reprise possible avec un corps de postillon.
Alors ça fait couler beaucoup d'encre, cette histoire, ça a intéressé Freud jusqu'à Lacan. Qu'est-ce qu'il dit exactement, Kierkegaard?
Alors, je vais vous lire le texte traduit en français.
Oui.
Et après, vous ferez l'analyse psychanalytique.
C'est ça. Après, moi, je vous lirai un extrait de...
À vos divans.
Vive le corps de postillon. C'est mon instrument pour bien des raisons et surtout parce qu'on n'est jamais sûr de pouvoir tirer de cet instrument le même son. Le corps de postillon offre en effet d'infinies possibilités. Celui qui le porte à la bouche pour y déposer sa sagesse ne se rendra jamais coupable d'une reprise, et celui qui, en guise de réponse, met à la disposition de son ami un corps de postillon ne dit rien, mais explique tout. Loué soit le corps de postillon. C'est mon symbole. Les vieux ascètes mettaient sur leur table une tête de mort dont la contemplation soutenait leur conception de la vie. De même, le corps de postillon sur ma table doit toujours me rappeler ce qu'est le sens de la vie. Vive le corps de postillon.
C'est un peu comme une vanité qui nous rappelle en effet qu'il n'y a pas de réel retour. Alors effectivement, ça fait penser que le corps de postillon devenait l'emblème de l'impossibilité de répéter. Et que donc s'entêter, c'est aussi que tous les matins du monde sont sans retour et que quand revient le corps de postillon, alors il nous est dit que c'est une nouvelle journée qui ne sera à jamais la même que la précédente. Donc il y a un tragique quand même.
Oui, oui, mais d'ailleurs au 19e siècle, il y a un tragique lié au postillon qui devient justement, mais c'est l'esprit 19e siècle, qui devient nostalgique plutôt. On évoque dans la poésie de Lénao notamment, le postillon, c'est la sonnerie qu'on entend au loin qui nous rappelle notre amour perdu et notre jeunesse.
Alors on l'a entendu donc forcément lui-même sonner, on l'a entendu dans une version violon, on a commencé l'émission avec un peu de clavecin, il y a d'autres occurrences
Oui tout à fait, il y a d'autres occurrences, par exemple un certain Boutmy qui n'est pas très connu, qui était claveciniste et qui était professeur de clavecin d'un prince de Touré-Taxis. On vous a parlé de cette grande famille qui avait le monopole des postes, et bien il faisait également de la musique. Et donc, on peut entendre Le Postillon allemand, une œuvre écrite pour clavecin, dans laquelle on retrouve cette sonnerie.
Et pourquoi il a intitulé Le Postillon allemand ? Parce qu'il a une forme mélodique spécifique ?
Alors, Le Postillon allemand, puisque c'était le Saint-Empire romain germanique, c'était le symbole de la poste, donc c'est directement en lien avec ce pays.
Kazuya Gunji qui interprétait au clavecin Le Postillon allemand de Jos Boutmy, compositeur qui exerçait à Bruxelles. Lucien, Julien Laferrière, c'était pas encore la Belgique ?
Non, je pense que ça faisait encore partie à l'époque.
Non, en 1738 quand il publie cette partition, oui.
Je ne sais pas si de l'Empire du Saint-Empire romain germanique, je pense que ça faisait en tout cas partie des territoires satellites de l'Empire, et comme le corps de postillon, le Posthorn en allemand, était l'apanage des postiers de cet empire, je pense que ça s'appelle le postillon allemand parce que, par exemple en France ou dans des territoires francophones, cette sonnerie ne retentissait pas sur les routes.
Alice, donc ça veut dire que les Français qui écoutaient Vivaldi ne comprenaient absolument pas la ref.
Ils n'avaient effectivement peut-être pas la ref. Et c'est pourquoi les premières pièces que nous avons écoutées au début de l'émission n'imitaient pas le corps de poste. Et voilà, à cette époque-là, en France, on avait un privilège complètement différent.
Et d'ailleurs, on avait des signalétiques pour annoncer le courrier, quand même, en France ou
Oui, tout à fait, mais plutôt avec des cornes qui n'étaient pas interdites. On n'avait pas de châtiment corporel.
Ah oui, c'est ça. Donc, les bouchers pouvaient encore faire leur office.
Voilà, tout à fait. Et puis d'autres corps français. On a, chez Mersenne, notamment, on a des dessins du corps français, corps postal français, qui étaient différents, voilà, qui ressemblaient encore un peu à une corne. Voilà, même s'il était dans une autre matière. Et
Mersenne, qui par ailleurs est un des premiers à avoir consigné les sonneries militaires dans ses écrits sous forme d'onomatopée.
Et les sonneries de chasse.
Et les sonneries de chasse, oui, tout à fait. Et donc, en France, on avait un système postal particulier à la France, et avec des relais de poste situés toutes les 7 lieues. Enfin, vous avez sûrement entendu parler de ça.
D'où les bottes.
D'où les bottes, effectivement. D'où les bottes de 7 lieues, qui sont les bottes du postillon. Voilà, puisque les bottes du postillon sont des énormes bottes gigantesques qui sont accrochées à la selle des chevaux. Ce sont des bottes qui ne sont absolument pas faites pour marcher avec. Le postillon sautait dedans et elles le protègent en cas de chute du cheval. Et donc ces bottes aux dimensions hors normes ont imprimé les esprits et Perrault s'en est emparé pour inventer les fameuses bottes de 7 lieues.
Et pourquoi le chat botté n'a pas de postillon ?
Parce que le chat botté, ce ne sont pas des bottes de 7 lieues. Ah. Les bottes de 7 lieues, ce sont celles du petit poussé qui vole à l'ogre.
Et il a un postillon, le petit poussé ?
Et non, il n'a pas de postillon, puisque nous vous disions qu'en France, il n'y avait pas de postillon.
Ah oui, pardon, ça y est, je suis perdue.
Voilà, c'est ça. Donc Perrault, étant bien français, Perrault utilise les bottes du postillon. Et d'ailleurs,
qui est une corde alors ?
Pardon ?
Non, qui n'a pas de corde.
Qui n'a pas de...
De corne, de,
ah oui.
De boucher.
Alors, le postillon... ça devient très technique, mais je pense que c'était... Je ne sais pas si c'était le postillon qui sonnait dans sa corne.
Qui est Jackman ?
C'est ça, exactement. Alors, Perrault était bien français, et donc évoquait plutôt les postillons de France sans cette sonnerie qu'on reconnaît. Et d'ailleurs, dans le disque, donc, on a mis quelques pièces françaises dont on a parlé, et puis on a terminé par une chanson bien française d'un certain Jacques Nam, qui était artiste et qui a composé cette chanson qui parle du postillon.
Et qui s'appelle « Les chansons de mon village ». Merci beaucoup, Alice Julien Laferrière. Merci, Lucien Julien Laferrière
merci
également. Et merci, Jean-François Madoff.
Le postillon, qu'un tourbillon amène au village, est un gars déluré, et dont on attend le passage. Arrive à son escarcelle pleine de nouvelles. Hu-ho, postillon fouette tes chevaux. Aux amoureux, ils porteraient du bon pour leur femme. Aux hommes, du tabac, papa, et des robes aux femmes. Pour les petits garçons, des billes, des poupées aux filles. Arrête tes chevaux. Puis sans façon, le postillon va boire une bouteille d'un petit vin clairé qui fait faire des merveilles. Choisis une fille à la ronde, soit brune, soit blonde. Quand le petit bois en tapis noir emmène la belle, il lui fit un cadeau, oh, quelle belle demoiselle. Très amoureuse, il lui donne beaucoup de sa personne. Qu'on est donc bien sur ses chevaux. Plein d'émotion, le postillon remonte vite en selle et s'en va tout réjoui, sans devoir d'appel.